Do you want to be a fighter?
RMC.
There's only one Tyson Fury.
Fighters Club.
I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody.
Alexandre Herbinet.
I am the greatest.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 267e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour vous proposer sa carte de rêve entre guillemets pour l'UFC Paris 28 septembre prochain à l'Accor Arena. Avec moi cette semaine, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au Bord du Ring, sa série Baba Versus sur YouTube, coach de pied-point de boxe anglaise et commentateur pour RMC, notamment les One Friday Fights. Comment ça va mon Baba?
Ça va et toi?
Ça va, écoute, fin de saison pour le RMC Fighter Club, mais on a encore beaucoup de choses à dire. Ouais. Jamais 2 sans 3. Et vu le plaisir lors des deux premières éditions, on devrait encore se régaler. Pour la troisième fois en 3 ans, l'UFC pose son grand chapiteau à Paris le 28 septembre prochain pour une Fight Night où les combattants français seront une nouvelle fois mis à l'honneur. Qui face à nos stars tricolores? Qui pour le main event aura-t-on droit à une nouvelle signature avant l'annonce des premiers combats et la mise en vente des billets début juillet? Le RMC Fighter Club se penche sur l'UFC Paris version 2024 et vous livre ses espoirs pour cette carte.
Bonne défense de Cyril, ils sont juste devant nous. Il s'est couché sur son adversaire. Le carré du bras arrière qui est rentré. Allez Cyril, il accélère.
L'accélération.
On ne pas, il va l'arrêter. Il va l'arrêter dans quelques instants. Il va jouer, c'est fini.
Cyril qui a gagné,
la limite.
Regardez le pression de Benoît avec l'anglaise.
Il y va.
Et le middle qui suit.
Ouais, parce qu'il n'y a plus rien.
Il accélère.
Attention là, ça va être la fin. C'est peut-être la fin du combat. L'arbitre est très vigilant. Il reste 20 secondes.
Il doit continuer. Il doit continuer.
Il n'y a plus rien.
Et c'est fini. Benoît, c'est fini.
Waouh, c'est bien rentré ça pour Manon.
Le bras arrière qui touche.
Et encore un jab.
Le high kick, on le voyait venir. Et c'est répondu avec un high kick par Manon.
Allez.
Manon qui accélère.
Manon, tapu.
Et merci à Max Abolin pour cette petite prod qui rappelait donc l'UFC Paris deuxième version, c'était en 2023, on rappelle septembre 2022 la première, septembre 2023 la deuxième. Je mets tout de suite le contexte Baba, comme on va créer notre petite carte, il y avait 12 combats en 2022.
Yes.
11 combats en 2023.
Ouais.
Donc on peut partir sur 12, on va dire.
Ouais,
on va,
12, c'est bien 12.
On est généreux dans la vie, mon Baba. Donc on va partir sur 12 avec, je vais te le séparer en deux, 6 main card, 6 prélims. C'est une fight night, 6 en main card.
C'est à peu près ce que je me suis dit aussi.
Ouais. Bon, bah, c'est bon. c'est ce qu'on avait à peu près d'habitude. Et je le rappelais, donc ça pour tous nos auditeurs qui espèrent pouvoir venir à l'Accor Arena pour l'UFC Paris 2024, sachez que c'est début juillet, le 5 juillet, la mise en vente des billets pour le grand public. Ouais. Vous pouvez les avoir 24 ou 48 heures avant si vous vous inscrivez sur le site de l'UFC, allez vous renseigner. En tout cas, c'est début juillet pour avoir ses places pour l'Accor Arena et ça devrait encore être blindé, Baba. Hein,
ouais, je pense que si vous voulez y aller, il va falloir se mettre sur les places très vite parce que bon, les deux dernières éditions, c'est parti.
Et ça me permet de passer un message parce que toi, tu vas y avoir droit cette année pour la troisième année. Donc, je le répète, nous n'avons pas de billets. C'est pas parce qu'on est diffuseur.
Oui,
puisque chaque année, j'ai 200 000 demandes. Non, je n'ai pas accès à des billets pour l'UFC Paris. Désolé, les amis.
Pour des raisons différentes, j'étais ni au premier ni au deuxième. Hein.
Ouais, exactement.
J'espère être au troisième.
Voilà, mais en tout cas, ce sera pas avec des billets, mais voilà. Alors, on va commencer. Je te fais la liste déjà pour rappel, parce que c'est important dans cet épisode-là de contextualiser toute la liste de nos Français quand même. C'est important.
Ouais.
On rappelle chez les hommes, Cyril Gann, Oumar Sy, Nassour Denimavov, Kevin Jousset, Benoît Saint-Denis, Fares Ziam, Morgan Charrière, William Gomis, Yanis Gemouri et Taylor Lapillus. On n'a pas de 125, on n'a pas pour l'instant de poids mouche.
Ouais.
Mais c'est peut-être une des signatures qui est possible, mon Baba.
Ouais, bien sûr.
Et chez les femmes, Manon Fiorot et Nora Cornol.
Ouais.
Je fais une première parenthèse juste, comme ça on expédie ça. Il n'y aura pas de Manon Fiorot à l'UFC Paris.
J'ai fait 100.
T'as fait ça. Donc on est d'accord. On rappelle, vous pouvez aller retrouver son interview que j'ai fait avec elle il y a quelques jours, où elle explique notamment que l'UFC, parce qu'à Paris, le seul truc qui faisait sens, c'était une ceinture intérimaire.
Ouais.
Elle a expliqué que l'UFC lui a dit, il n'y aura pas de ceinture intérimaire, c'est sûr. Soit elle affrontera Grasso directement le 14 septembre à la sphère, si Valentina veut pas le faire, Shevchenko. Ouais. Et si Valentina veut le faire, eh ben elle prendra la gagnante en fin d'année, en début d'année 2025, et elle sera remplaçante pour la sphère. Donc on n'aura pas de Manon Fiorot à Paris. Le mieux qu'on puisse avoir, c'est si jamais elle a combattu à la sphère et qu'elle vient avec sa belle ceinture de championne.
Je veux dire qu'elle puisse venir parader avec. Et voilà,
c'est exactement, tu vois, c'est le mieux qu'on peut avoir de Manon Fiorot le 28 septembre. Donc ça, c'est expédié. Donc on en a plus que 11 et on a 12 combats, mais on peut faire signer des gens. On n'est pas obligé de tous les mettre d'ailleurs. Bah, on verra si toi tu as décidé de tous les mettre.
Ouais.
Je pense qu'on commence par le haut parce que c'est le plus important. Les trois incontournables, Cyril Gann, Benoît Saint-Denis, Nassour Dine, Imavov. Qui sera le main event? C'est ça la grosse question. Comme ça, toi, tu me dirais, ça dépend des adversaires, ou tu dirais de base, Cyril, c'est trop la star et quoi qu'il arrive, c'est main event. Comment tu réagis par rapport à ça?
C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est la star, c'est vrai que c'est la star, sauf que ça fait un bout de temps qu'il n'a pas combattu.
Un an, hein. C'était voilà, au dernier UFC Paris, Spivak.
Ça fait un an et voilà, je ne sais pas quels sont les plans, si c'est obligatoire de faire combattre en 5 rounds ou pas. En tout cas, moi, avec ce qui s'est passé, les développements récents, et c'est une carte qu'on espère, hein, encore une fois, hein, c'est pas une carte... c'est un exercice de kiff.
Ouais, ouais, bien sûr.
En tout cas, j'ai fait comme ça.
C'est pour ça que je t'ai dit notre carte de rêve, c'est voilà. Qu'on se fait kiffer là aujourd'hui. Là-bas. On n'est pas en mode, non, il peut pas lui... Non, on se fait kiffer
voilà,
là aujourd'hui.
Voilà. Donc, ouais, non, moi, je prendrais plus en élément, je prendrais quand même en compte ce qui s'est passé récemment. Ouais. Et avec tout ce qui s'est passé récemment, est-ce que je voudrais qu'il se passe pour cette carte-là, je l'aurais pas en main event, perso.
Non, moi, je l'aurais pas en main event. Et j'ai les deux raisons qui te rejoignent un peu. Je trouve que... Il est, sur la dernière année, il n'a pas combattu. Ouais. Et vu ce qu'ont fait notamment les deux dont on va parler en parallèle, c'est-à-dire Benoît Saint-Denis et Nassourdine Imavov, il le mérite. Il mérite d'avoir cette possibilité, parce que tu es sur le poster, c'est quand même un truc qui, pour sa carrière, est énorme à Paris, tu vois. Et je trouve qu'en fait, c'est bien de tourner. Parce que ça ferait la troisième fois qu'on aurait Gane quand même. Alors même si c'est celui qui a été le plus haut, hein, champion intérimaire, on le rappelle, c'est la star. Mais je trouve que c'est bien de changer et de montrer justement, on a 12 Français, on a beaucoup de Français aujourd'hui à l'UFC qui brillent, qui font des belles choses, et de montrer qu'il n'y a pas que Cyril Gane, entre guillemets, tu vois, en termes de star en tout cas.
Il y en a d'autres, et cette année, et c'est dans les mois récents qui ont fait des belles choses, et ça permettrait du côté de l'UFC de montrer que voilà, quand ils font des cartes à Paris, on ne vient pas seulement pour Cyril Gane, mais aussi pour tous les autres combattants, et surtout ceux qui viennent de rentrer là dans les top 10, voire top 5.
Donc bah, on va prendre le problème à l'envers et on reviendra sur Gane après alors Mobaba. Donc il nous reste Benoît et Nassour. Qui en main event et est-ce que ça dépend de l'adversaire? Et fais-nous un peu donc ton micmac, qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette carte?
Ça dépend pas mal de l'adversaire. Moi en tout cas j'ai mis Nassour en main event dans l'éventualité où il combattrait Sean Strickland.
Ouais. C'est la seule fois où tu le mets main event?
Oui.
Ouais, ok, moi aussi.
Voilà, c'est ce que je vois, en tout cas. Pour moi, il a montré contre Canonier qu'il mérite cette place. Voilà, BSD aussi a fait de très belles choses, mais là il est mieux classé dans sa catégorie. Il y a des bruits de couloir, voilà, hein, qu'il a été aussi sollicité pour remplacer Chimaev.
Je peux te le confirmer, plus que des bruits de couloir, il a été contacté.
Ouais. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein, que pour l'UFC en tout cas, voilà, il est dans les petits papiers et il est pressenti pour de grandes choses. Donc voilà, donc pour moi, je pense qu'il Main event contre Strickland, ça le ferait. Le
problème, on a eu une fuite, hein. Désolé, je te coupe. On a eu une fuite avec l'annonce de Dana White quand il annonce le forfait de McGregor. Il y a le 305 en Australie derrière dans le background et on voit le nom d'Adesanya en haut avec ceinture. Donc, c'est pas officiel, mais on sait qu'il y aura Dricus Duplessis contre Israël Adesanya en août. Ça fait sens, Strickland-Imavov, pour une sorte de demi-finale. C'est une demi-finale mondiale. C'est le prochain challenger, en fait.
C'est une vraie demi-finale et voilà, Strickland, de toute façon, ne peut pas combattre tout de suite pour la ceinture. Il le savait très bien, même s'il a fait son discours, etc. Je le vois pas. Je pense pas que c'est le genre de combattant qui attendra et je pense pas non plus que c'est le genre de gars qui refusera l'opportunité d'être le super méchant là de l'histoire en venant en France et voilà.
Donc, par contre, je pense qu'il négocie, enfin pas qu'il négocie, mais aussi c'est clair, c'est un main event et c'est un synchrone. Pour moi, s'il vient à Paris, c'est ça.
Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est un main event si c'est ce combat-là parce que voilà, de base, hein, c'est pas ce que j'aurais voulu encore une fois pour Imavov. Hein, je l'ai dit dans un autre épisode que pour moi, il fallait pas rester bloqué sur ce mec-là. Sauf que comment tout s'est passé, comment tout s'est déroulé, ben finalement, ce combat-là, il fait sens.
Moi, j'avais bien ta phrase dans le débrief. Ça se goupille bien. C'est juste, ça se goupille bien. C'est parfait.
De là, on y va et on le fait.
On reste sur Nassour parce que j'avais plusieurs propositions pour toi à chaque fois. Si jamais il n'a pas Strickland, Strickland ne veut pas, Strickland est blessé, il y a plein de raisons. Il y a une possibilité aussi qu'est Nassour, après Dricus Duplessis à Adesanya, l'UFC l'appelle, lui dit c'est toi le prochain challenger et t'attends. Et qu'il y a une possibilité que Nassour dise bon, bah, je ne suis pas à Paris, il ne faut pas l'exclure ça. Tu vois, lui veut absolument combattre à Paris, mais si on te propose ça, je pense que tu peux difficilement dire non quand même. Donc il y a cette possibilité. Moi j'ai deux autres choix pour toi. Le vainqueur de Whittaker Alice Kerov.
Ouais.
Je trouve ça même très fun si c'est Alice Kerov en fait.
Ouais.
Parce qu'il devait se combattre à Abu Dhabi l'an dernier. Il y a eu le problème de visa pour Nassourdine. Ce serait un peu les deux qui grimpent. Alors c'est très risqué pour Nassour. On l'avait déjà dit à l'époque d'Abu Dhabi. Moi j'aime bien cette possibilité outre. Ou Vettori pour le côté. On a des Italiens. On fout le feu à la foule.
Ouais. C'était mon deuxième choix, Vettori.
Tu préfères quoi des deux entre les deux que
je préfère Alice Kerov. Je préfère Alice Kerov de loin, mais
Vettori. Et même Whittaker, c'est Whittaker qui
Voilà.
Pour le coup, on en avait parlé dans le débrief. On vous renvoie au débrief. Voilà. Ouais.
Si le vainqueur de ce combat-là, il est en possibilité de recombattre 3 à 4 mois plus tard, évidemment que c'est le mieux, c'est l'option que je préférerais. Maintenant, logiquement, Vettori, il est disponible. C'est un Européen, c'est un Italien, c'est un voisin. Avec tout ce que ça peut ramener en termes de business et tout, ça me paraît très logique quoi, qu'il le fasse. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas un combat que je verrai en main event. si c'était ce combat-là.
Ouais, je suis complètement d'accord. Aucun des autres, à part Strickland, pour moi, on est sûrement dans le co-main, puisque c'est Nassourdine, ouais. C'est top 5 d'une KT à l'UFC, c'est rare, mais c'est pas le main event. On reste sur Benoît avant d'aller sur Cyril, parce que c'était l'autre qui nous intéressait. Comme on a dit tous les deux, on aimerait que ce soit un autre que Cyril main event. Est-ce qu'il y a un combat qui met Benoît main event ou pas, selon toi? Moi, j'en ai trois à te proposer.
Ouais.
J'ai Dan Hooker, on a déjà parlé ici, Raphaël Fiziev, puisque ça a tourné un peu en rumeur dernièrement, et Jalin Turner.
Yes, ok.
Qui sort d'une défaite comme Benoît, ça peut faire sens aussi, même s'il est plus bas dans le classement.
D'accord.
Est-ce qu'il y a un de ces trois qui est main event pour toi déjà?
Bah, j'en avais deux sur trois, moi.
Ouais,
j'en avais deux sur
les
trois.
Les deux premiers.
Mon premier, c'est Hooker, ouais. C'est mon premier choix, c'est Hooker. Et soit il est co-main, soit il est main pour moi. Mm. Tout dépend, encore une fois, du match-up de Nassourdine.
On sait que ça intéresse, nous, dans le Fighter Club, on vous renvoie le Fighter Club avec Guillaume Pelletier, son manager. Il nous dit que c'est quelque chose qui est dans les tuyaux, qui les intéresse.
Ouais.
Dan Hooker, côté nous, c'était Kevin Jusset qui nous a appris l'info, puisqu'ils ils sont dans la même salle, ils ont le même manager du côté de la Nouvelle-Zélande. Dan Hooker aussi a été mis au courant de ça, il sait que c'est dans les tuyaux, c'est possible. Ça a une belle tête. Moi, j'adore ça. C'est une belle tête de main event aussi. S'il n'y a pas, pour le coup, tu vois, t'as Nassour contre Vettori ou Aliskerov ou Whittaker, c'est une tête de main event si c'est BSD et Hooker.
Ouais,
Hooker est connu à l'international pour ses guerres. Il a affronté Poirier, c'est un nom. C'est pas une superstar, mais c'est un nom. Ça parle aux gens. Benoît, je pense qu'il est assez connu maintenant aussi en dehors de nos frontières depuis Poirier quand même. On sait que les fans du UFC savent qui c'est.
Ouais.
Ça fait du sens. Même, tu vois, sorti des frontières pour le côté international.
Ça ferait complètement sens pour plein de raisons, sur les raisons que tu as évoquées, le fait que Hooker c'est un nom qui a déjà fait des 5 rounds, ça permettrait à BSD de faire un autre 5 rounds, et on sait que l'UFC prépare les futurs challengers pour le titre en leur donnant des main events, en leur donnant des possibilités de combattre sur 5 rounds, donc ça remplirait cette fonction-là aussi. Sa performance contre Poirier fait que normalement du côté de l'UFC on sait qu'il est bien, il est bien vu en tout cas, du côté des fans internationaux il est bien vu, c'est pas que les fans français maintenant, c'est tous les fans même internationaux qui sont assez fans du combattant. Donc ouais, ça ferait beaucoup de sens. Et puis encore une fois, en termes internationaux, Imavov, c'est bien parce qu'il est dans les cerveaux des gens, parce qu'il vient de combattre et il vient de battre un nom aux States. Et puis BSD, avec ce qu'il a fait contre Poirier, il a marqué les esprits. Donc les Américains qui devraient se mettre devant leur télé, ils seraient assez contents de revoir BSD parce qu'ils savent que c'est du spectacle assuré.
Complètement. On sait que Hooker, c'est du spectacle assuré aussi. Hein. Il reste, je crois que son dernier combat c'était en juillet, l'Intercontinental Fight Week UFC 290, parce qu'il s'était pété le bras.
Exactement.
Mais c'est une garantie de spectacle. En plus, après plus d'un an sans combat, je vois bien Hooker arriver comme un débile entre guillemets, tu vois.
Ouais, il a déjà fait des choses comme ça, exactement. Donc c'est sûr que tu vas faire du spectacle là, ça.
Et l'homme de pied-point que t'es, Fiziev, ça te plaît pas plus?
Ah, si, ouais.
Pour BSD ?
Bien sûr. Après, il y a tout un terme stratégique, il y a plein de choses à voir. Mais Fiziev, moi, c'est un combattant que j'aime beaucoup, de par son style, normalement. Mais c'est une option super intéressante. C'est une option super intéressante. C'est la deuxième à laquelle j'avais pensé. Derrière,
c'est un nom
j'ai
aussi.
Regardé, j'ai vu qu'il n'était pas booké, je me suis dit, ok, ça passe, c'est un nom. Il a combattu un gros nom comme BSD. Ils ont tous les deux perdu contre un gros nom.
Les dernières rumeurs qui tournent, c'était Fiziev. Tout ce qui a tourné sur les réseaux ces derniers jours, il y avait une tendance à aller vers Fiziev.
Il y a de la logique dans ce combat-là parce que les deux combattants ont perdu contre deux gros noms, contre deux gros noms de la catégorie. Et donc maintenant, c'est de voir lequel des deux on fait remonter derrière.
C'est
juste que Hooker, il est là et que c'est une trop bonne opportunité de ne pas le faire.
C'est ça. T'as plus envie de voir Hooker, j'ai l'impression. Ouais. Enfin, globalement, peut-être pas forcément toi ou moi, mais globalement, ça fait plus sens, Fiziev. Par rapport à tout ce que tu as dit, là, tu viens de perdre contre deux monstres de la KT quand même.
Oui.
Voilà, le combat pour dire lequel des deux on fait remonter le plus vite pour se retester face à un gros nom, tu vois. Ouais. Donc ça fait beaucoup de sens, Fiziev. Ça a une belle tête aussi pour le coup de main event. Si, tu vois, si t'as pas Nassour contre Strickland.
Ouais.
Après, ça se débat plus. Je trouve que tu vois, si t'as BSD Fiziev avec Gann, ça se débat plus là.
C'est ça.
C'est marrant, avec les trois, ils ont un vrai. Il y a un jeu de cartes à faire.
Selon les noms que tu mets, c'est normal que voilà. Il y en a que un que j'ai éliminé parce que le match-up, apparemment, il est clair, net et précis, c'est Gann. Et je crois pas qu'on aura de surprise sur son adversaire. Et oui, ça m'intéresse moins en main event, en toute franchise.
Je suis assez d'accord avec toi. Passons à Gann, parce que tu as raison. T'as raison, c'est pour ça aussi que je voulais pas commencer par lui. C'est notre star, le main event des deux premiers UFC Paris. Mais c'est à peu près clair ce qu'il va faire. Jelton Almeida, sa victoire, qu'il a call out après, qui a refait un message
Twitter,
en taguant Mike Maynard, Dana White, et tu l'avais dit.
Et ça, on sait.
Et voilà, quand on fait ça, c'est qu'on est en service commandé, comme d'ailleurs Cyril l'avait fait avec John Jones en mois de janvier 2023. Il y a une logique à ça. Le seul qui peut changer la donne, Et on enregistre donc cette émission, et vous l'entendrez avant, donc c'est ce week-end en Arabie Saoudite, avec Pavlovic contre Volkov. Ouais. Le gagnant de celui-là, est-ce qu'on ne peut pas lui donner, notamment... Moi, je trouve que ça fait sens si c'est Pavlovic qui gagne, puisqu'on n'a jamais eu le match-up.
Ouais.
Volkov gagne à Paris. T'as déjà eu Volkov gagne il y a 3 ans. Waouh,
ouais.
Wow, c'est pas sexy. Je suis désolé. Ouais. Hein. C'est un bon combat, parce que Volkov l'aurait mérité. Je crois qu'il serait sur 3 ou 4 victoires de suite s'il bat Pavlovic. Et il battrait un mec qui était vu comme un épouvantail il y a encore 8 mois. Mais ça m'excite pas des masses. Hein.
Ouais, Gan, non, Gan c'est des combattants.
Il faut faire Almeida, quoi qu'il arrive. Peu importe ce qui se passe à Pavlovic, Volkov,
ouais,
pour toi.
Pour moi, il faut rester sur Almeida. Le combat entre Volkov et Pavlovic, il va se faire là. Comme plein d'autres, ils vont combattre. Mais bon, pour moi, Almeida, il est là. Il l'a call out à plusieurs reprises. La dernière fois à Paris, c'était contre Spivak, qui était classé, certes. Mais bon, c'était pas un combattant de l'élite. C'était pas un combattant du top 5 ou quoi. Almeida, il a une bonne cote.
Ouais.
Il a une bonne cote, c'est un combattant différent.
Il a sûrement une cote plus haute que son classement, d'ailleurs. Voilà, tu vois ce que je veux dire.
Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Donc voilà, tout le monde le voit comme un mec qui va combattre pour le titre prochainement. Ce serait bien pour Cyril de entre guillemets, d'arriver, de prendre ce mec, de l'éteindre.
Il y a, bien sûr, on ne va pas se cacher, ce côté grappling aussi, qui forcément intrigue tout le monde, parce qu'on voulait le voir contre Blaze aussi. Ouais. Vu ce qui s'est passé contre Jones, on a envie de voir ces réponses au sol, notamment pour Cyril. Donc quelqu'un comme Almeida, ça fait sens, parce que là, on y a une vraie position de style, le striker contre le grappler.
Ouais, et puis le combattant qui monte dans la KT, ce serait bien, voilà, de stopper cet élan-là et voilà, de montrer à l'UFC, de montrer à Dana et tout que bah, lui, il est toujours là et que en fait, sa place, c'est top 3 et qu'il faut lui donner un combattant du top 3 et pas autre chose.
Pavlovic, j'ai dire, pour le nom, c'est cool. Bah, tu vois, c'est un combat qui a parlé même à l'international. Pavlovic, il est connu. Waouh, j'en ai pas des masses envie non plus, en fait. Pour le style du combat, tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Il va nous faire son Cyril Gane. Et oui, il va toucher, sortir, et il va le rendre fou. Et puis, s'il se fait pas toucher par la grosse droite, il aura gagné. Mais tu vois, stylistiquement, ça m'attire moins, on va dire.
Après, en vérité, moi, personnellement, je pense que c'est normal. C'est parce que c'est ma sensibilité, donc j'aime bien les combats debout.
Oui,
donc,
vas-y, n'hésite
évidemment,
pas.
Évidemment, je préférerais un Gan Pavlovic pour ça.
Ouais.
Par rapport au style, je sais que c'est un combat debout, etc. Almeida, tout le monde en a vu très bien ce qu'il fait. Il se prend pas la tête. Hein. Il arrive,
on n'aura aucune surprise. Ça va être facile.
Leg et boom, et voilà.
La preview, elle est facilement écrite, là-bas. On va pas se mentir.
Donc voilà. Après, c'est bien si Gan le prend pour pouvoir montrer les progrès éventuels qu'il a fait. Et puis, encore une fois, c'est mieux pour lui de prendre un combattant qui monte, de le stopper et de montrer à tout le monde ce qu'il en est. Le combat contre Pavlovic, c'est un combat. C'est un combat intéressant stylistiquement, mais ça va pas plus loin que ça. C'est un combat que je veux toujours voir.
Bien sûr, il aura de l'attrait, ce combat. Il y a pas de souci. C'est évident, mais il manque un petit truc. Je trouve, moi perso, très personnellement. Bon, vu qu'on a à peu près fait nos trois stars, on va en décider d'un chacun à peu près ce qu'on a dit le plus. Et là, on va donner notre ordre, Baba. Donc Strickland nous a fait une folie, il accepte, il vient.
Ouais.
Imavov Strickland, BSD Hooker. Gan Almeida, c'est quoi ton ordre des trois derniers? Donc Nassou en main event.
Imavov main event. Je le mets en main event.
BSD Comain.
Je pense que je mets BSD Comain et que je mets Cyril en troisième.
Et tu tentes une folie ou pas? C'est-à-dire que si t'as mis Cyril en troisième, tu tentes pas une folie, genre j'ouvre la carte avec Cyril?
Ah, je sais pas si.
Je sais que le grand public le verrait comme un manque de respect.
Un peu.
Alors qu'il y a eu plein de. On rappelle juste le UFC 208, Chandler Gaethje, qui est le combat de la soirée, il ouvre la carte.
Ouais,
L'UFC adore ouvrir la carte par ce qu'ils appellent un banger, truc qui te. Donc je dis, quitte à pas le mettre main event, c'est osé, faut qu'il accepte. Mais je trouve ça cool. On ouvre la main card et c'est Cyril Gane.
Non, ça peut. Maintenant que tu me le présentes comme je me dis pourquoi.
Tu sais que je vais me faire déchirer sur les réseaux pour ce truc, le disrespect, qu'est-ce que tu peux dire? Je le vois pas du tout, tu vois ce que je veux dire? Pas du tout en manque de respect quand je dis ça.
Non, je pense pas en tout cas. Non, je te connais, je sais que c'est pas du manque de respect du tout. Maintenant, ça me paraît difficile à faire. Je pense que voilà, déjà le fait de pas le mettre main event, il y en a certains qui vont voir comme un manque de respect. Le fait de pas le mettre co-main, mais pareil, et lui aussi pour le prendre comme un manque de respect, mais c'est pas du tout le cas, encore une fois. C'est juste que on l'a dit toute la saison, on l'a dit que c'était un sport à mémoire récente.
Ouais.
Et Cyril il a pas combattu depuis un an.
Oui, ce sera l'UFC Paris 1, donc ce sera même un an et un mois quasiment.
Ça fera un peu plus d'un an qu'il n'aura pas combattu, alors que les autres ont combattu, ont montré des choses dans la victoire comme dans la défaite. qui fait que ce soit pour les fans français et puis les fans internationaux, ben, c'est des noms qui ont collé à la rétine, qui ont collé au cerveau, et que c'est pour ça, moi, c'est pour ces raisons-là.
Ouais, je suis d'accord. Voilà. Et message d'avance à ceux qui sont déjà sur leur clavier à dire « Bah bye Alex, ne vous dites n'importe quoi ». On respecte totalement, bien sûr, Cyril, et si demain l'UFC le met en main event avec Almeida à Paris, mais on est très content, on va pas gueuler, enfin, y a pas de souci.
Pas du tout, non.
Ce serait mérité aussi pour ce qu'il est et pour ce qu'il représente.
On fait un exercice, et puis je vous invite à répondre en commentaire avec les vôtres, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, s'il est en main event, ce sera aussi totalement normal, parce qu'il a porté les deux premières cartes de l'UFC Paris, et ça reste une méga star française du
sport. Ah ouais, ce serait pas une hérésie du tout, loin de là.
Il n'y a pas de problème.
Bon, on a fait les trois qui sont, pour moi, sûrs d'être là. C'est les stars, l'UFC ne peut pas s'en passer. En plus, on n'a pas Manon, pour le coup, on a expliqué pourquoi. Ouais. Enfin, vraiment, je pense que ces trois-là, c'est incontournable. Derrière, on ouvre ma première question, et après, on va faire un par un, Baba. Mais est-ce que tu en enlèves un chez les hommes? Donc, de ceux qui restent, Jousset, Oumar Sy, Ziam, Charrière, Gomis, Guémouri, Lapillus.
C'est dur.
Toi, tu as construit ta carte avec que des Français?
Oh ouais.
Ouais,
ouais, j'ai mis que des Français, j'en ai ajouté même, donc c'est pas simple.
Non, mais je suis assez d'accord parce que je voyais beaucoup, et moi aussi, je suis assez dans.
C'est pas simple, j'en ai ajouté deux en plus qui ne sont aujourd'hui pas à l'UFC.
Je suis assez dans cette idée-là d'avoir que des Français parce qu'on a maintenant le nombre pour.
Aujourd'hui, il y a moyen de le faire. Ouais. Les Anglais, après, il faudra que je regarde, je sais pas s'ils ont déjà fait ça.
Quasi. Ils étaient quasi, ouais. Il n'y avait pas la carte entière, mais quasi, notamment quand ils reviennent en mars 2022 peut-être, je crois, ou pas, ou 2023, non, 2022 je pense, à Londres pour le retour après plusieurs années. Je crois qu'il n'y a que des Anglais. Le Brésil, le dernier UFC, le 301, il n'y a que des Brésiliens en combat. Quant à le nombre, pourquoi s'embêter? Pourquoi avoir... Je veux dire, oui, c'était cool d'avoir Whittaker Vettori à l'UFC par exemple. Ce genre d'affiche, je prends. Si l'UFC me donne l'équivalent aujourd'hui d'un Whittaker Vettori, ok, je prends. Mais les combats qu'avait ouvert la carte, je me souviens même plus du combat féminin.
J'ai plus de souvenirs.
Aline Pérez, l'Argentine.
Voilà. Pourquoi nous imposer ça?
Ouais, en fait, si tu peux avoir des Français, pourquoi?
Il y a des
pourquoi
Français qui sont là, qui sont bons, qui sont forts, qui ont du following en France, il faut les faire combattre.
Ta carte, elle est avec le décalage horaire. Tu sais que ce ne sera pas la plus regardée de l'année aux États-Unis. Fais-toi plaisir. Mais des Français, on en a plein. On en a plein, on peut même en faire signer d'autres. Donc moi, je suis c'est d'accord, je la remplis de français pour le coup. Donc, qu'est-ce que tu mets en main card? Alors, ça va être autre chose. Et est-ce que tu mets une nouvelle signature en main card ou c'est que les gars qui sont déjà là?
Alors déjà, non. Comme ça, je réponds vite.
Plus. On est d'accord. Donc, qui t'a en main card en plus de nos trois stars?
J'ai évidemment Taylor Lapillus.
Ok.
Qui sort d'une super perf.
Ouais.
Qui mérite, qui est le combattant, qui est un des combattants les plus expérimentés, si ce n'est le plus expérimenté.
Ouais, complètement.
En France.
Très grosse base populaire aussi parce qu'il est commentateur chez nous, donc il a aussi un gros suivi fan.
Je le mets parce que je pense qu'il mérite cette place là et que je crois qu'il était en main card la dernière fois où je dis.
Non, il était en prélim.
Ok. Ouais. Donc moi je le mets en main card. Parce que en plus les combats, les deux adversaires que j'imagine, c'est des adversaires qui ont un nom. Le premier, ce serait Dominique Cruz, parce que il a toujours voulu l'affronter. Il a toujours exprimé ça. Cruz, ça fait longtemps qu'il
n'a pas combattu. C'est son idole.
Il y a plein de raisons pour lesquelles ça pourrait.
Je suis sûr que Cruz, en fin de carrière, comme il est là, je suis persuadé que si l'UFC l'appelle, il lui dit Paris, ça peut lui parler un peu. Attends, j'en ai plus beaucoup des combats, là on va aller me faire fighter à Paris contre un local. Ça peut l'intéresser, je pense.
Pourquoi pas, tu vois, ça peut être intéressant pour lui. Après, Cruz, il est particulier, on le sait
tous.
Oui, tout,
complètement, hein. Il préférera sans doute d'autres gros noms. Au niveau nom, ça ne l'intéressera pas. Lui, c'est le contexte qui peut le...
Il a parlé d'Aldo et tout, donc on verra bien.
On est d'accord.
On verra bien. C'est juste que moi, c'est par rapport à Taylor et ce serait une belle récompense pour Taylor.
Il est toujours 13e du classement, Dominique Cruz.
Voilà, il est bas.
Tu tapes à la porte du... Tu peux rentrer dans le top 15 avec ça. Et le deuxième, je suppose que tu voulais citer Pedro Munhoz.
Ah non, j'ai pas choisi lui, non.
Parce qu'il est 15e et ça fait sens aussi. Tu vois, un nom, un
ancien.
Il est 15e,
j'ai vu, mais j'ai choisi celui qui est juste au-dessus de lui.
Ah, j'aime bien, dis-moi.
Jonathan Martinez.
Ok.
Ouais, qui vient de perdre contre José Aldo.
Ouais.
Et voilà, qui a un adversaire intéressant, striker. Ça ferait une belle opposition. Et ça lui permet de prendre le numéro 14 de la KT, donc pourquoi pas de rentrer dedans.
Ok,
j'ai vu Munhoz et il m'appelait le combat, il était là, il est facile à faire, il est pas booké, tout ça. Mais voilà, je me dis Martinez, ça peut être plus intéressant pour Taylor, parce que Martinez, récemment, il a fait son nom, il a battu des mecs intéressants, et il vient de combattre Aldo, donc voilà.
J'y avais pas du tout pensé, alors que j'ai vu passer son nom, et en fait, il y a quelque chose, à monter. Moi, j'y ai pensé, en premier lieu, j'ai pensé à Song Yadong, qui avait été évoqué d'ailleurs en possible combat pour Taylor il y a quelques mois, mais il est booké, j'avais oublié, il est booké sur le 305, enfin en tout cas dans la fuite de Dana White, il y a son nom, donc je pense qu'il est booké. Moi j'en ai un autre qui me plaît bien parce qu'il l'a call out plusieurs fois, qui sort d'une défaite, que c'est un nom qui parle à beaucoup de gens et que pour une main card c'est cool, pareil pour une ouverture de main card, je trouve ça parfait.
Ouais.
Et c'est Cody Garbrandt.
Ah oui, oui.
Ouais, Lapillus Garbrandt pour ouvrir Paris.
Ouais, c'est
ça a quand même une sacrée gueule.
Ah, c'est clair. En fait. C'est clair, ça serait bien. Ouais.
Un ancien champion contre le mec, comme tu dis, l'ancien, l'aîné un peu du MMA français. Je l'aime bien pour mon ouverture de Minecraft.
Ouais, non, je valide. Je valide complètement.
Bah, j'ai validé ton idée, t'as validé la mienne. On est bon, on est bon. Ouais. Autre moi que je fais, que je mets dans la main card, dans les deux autres combats maintenant, puisqu'on a mis tous les deux Lapillus dans la main card, je mets Oumar Sy.
Ouais. Ouais. Je suis d'accord.
Pour ce qui représente pour l'avenir aussi, en fait, tu vois. Pour présenter aux gens, voilà votre futur, un de vos futurs grands à l'UFC. Kita pour Oumar Sy.
C'était quoi ton idée ? Manyfield.
Ok. Le gars, donc, il est Manyfield contre. En fait, il fight.
Ah, il doit rebooker finalement ?
Contre Borzakhanov.
Bon, pensais qu'il n'était pas booké. Mais...
Moi, c'était ma première idée. C'est noté, je vais dire à mon conducteur. J'aime l'idée du gagnant de Manyfield contre Borzakhanov. Ouais. Donc, ils sont 14 et 15e.
Ouais.
Ils s'affrontent début août, le 3 août. Ça fait juste.
Ça fait juste.
À part s'il y en a un qui sort, qui met un KO en 20 secondes et il sort complètement intact et il dit je veux bien refighter à Paris dans un mois et demi, ça me paraît juste.
Ça va faire juste.
Dommage parce que c'est parfait.
Ouais, ça va.
T'entrais dans le top 15, t'étais très bien. T'avais une autre idée ou pas ?
Non, après je me suis dit si c'est pas un de ces mecs-là, ça va être compliqué de lui donner un top 15. Et c'est un peu dommage, mais voilà, faut voir plus haut quoi.
J'en ai deux autres.
Ouais.
Le 12e, Bogdan Guskov.
Ouais.
Sort d'une victoire en avril sur Ryan Spann, il est pas booké.
Ouais.
Ça peut faire sens. Et l'autre que j'aime bien. Eh bien, ça a sauté au moment du McGregor. Vous savez que Jamal Hill, Carlos Hulberg a sauté.
Ouais, c'est vrai.
Et Carlos Hulberg, il va réaffronter notre ami Anthony Smith.
Ok, ouais.
Le perdant de ça, par exemple. Les deux sont classés.
Ouais, ce serait super intéressant.
Ouais.
Ah oui, oui.
Tu vois ?
Clairement. Ça, c'est clair. Après, Hulberg, il est sur une belle série de victoires, je crois.
Oui. Alors, c'est dans le cas de défaite, tu vois.
Ouais.
C'est-à-dire, si Hulberg a perdu contre Smith, là où ça fait sens aussi, c'est qu'il y a un mec qui est sur la carte. Que je vais mettre moi sur ma carte en prélim, qui s'appelle Kevin Jousset, qui est dans la même salle que Carlos Hulberg.
Ouais.
Donc ça ferait sens même pour eux, en termes d'un peu de ramener toute la team de Nouvelle-Zélande ensemble.
Ouais.
J'aime bien cette idée-là.
J'avoue que c'est pas mal. Moi, j'aimerais beaucoup que ce soit un top 15, en tout cas, quoi qu'il arrive. Après,
Guskov, c'est 12e, c'est pas mal aussi.
C'est pas mal aussi.
En tout cas, je pense qu'il a impressionné avec sa première victoire, Oumar. Je pense qu'on l'a tous vu, cette soumission au premier round. Je pense que même qu'à l'UFC, et on sait que les light heavyweight, les 205 pounds, c'est pas la catégorie la plus dense du moment, loin de là.
Tu peux monter très vite.
On sait, moi, c'est un truc parce qu'on me disait, quand je prépare l'émission, on me disait aussi dans la rédac, mais ils vont jamais lui donner un top 15. Si, il devait combattre à l'UFC Paris l'an dernier. En tout cas, on lui avait proposé. Puis il y avait le problème de contractuel avec le KSW. Il lui avait proposé Özdemir, qui était top 10.
Qui était top 10, oui.
Donc tu vois, ils ont été plus loin que nous, l'UFC, l'an dernier.
Je pense qu'il y a du respect autour d'Oumar Sy, de la part de l'UFC et des spécialistes. Ils savent qui il est, ils savent que c'est un combattant d'élite. Et je pense pas qu'on va perdre du temps à lui donner 4 combats hors du top 15 avant. On va pas lui faire une construction. Voilà. On a ramené un mec comme Oumar parce que c'est un nom.
On va le faire monter. Ouais.
Et qu'on va le faire monter rapidement parce qu'il a besoin d'avoir une catégorie.
C'est pour ça que moi je pense qu'il aura un top 15 à part. S'ils lui ont proposé Özdemir l'année d'avant,
ils sont
Özdemir, ça aurait même pu faire, en fait, ça aurait pu faire sens, quoi.
Bien sûr.
Il est encore top 10, Özdemir.
Ils sont en pleine construction du top 15, ils sont en train de le reconstruire plutôt, le top 15, hein, pour le refaire élite. Hein. Il avait perdu un peu de sa superbe dans cette catégorie-là. Et donc ça passe par des combattants comme Oumar, et je pense pas qu'ils vont perdre du temps avec lui, non. Je pense pas.
Non, je suis assez d'accord avec toi. Donc il est pour moi en main card. Et contre un top 15 pour rentrer dans le top 15 et commencer à s'insérer dans la discussion chez les lourds légers.
Ouais.
On a quasiment rempli notre main card, on est à 5 sur 6 mon baba. C'est quoi ton dernier combat ? Parce que moi j'ai une hésitation entre deux choses en fait. Donc je te laisse d'abord la parole, c'est quoi que tu mettrais en dernier en main card ?
J'ai un combat d'ouverture en main card.
Ok.
Et ce serait Morgan Charrière.
Ouais, vas-y.
Et je mettrais contre Charles Jourdain.
Ah mon salaud. Vraiment qu'on se prépare avant parce qu'on boucle des trucs pareil. Moi j'ai le gagnant de Jourdain, Jean Silva.
Ouais.
Ils fight au 303, okay. Donc fin juin.
Ouais.
En espérant que ce soit Jourdain.
Voilà, c'est ça, évidemment. Idéalement.
Et mon autre truc pour Charrière, et là je le mets en fait, si c'est Jourdain, j'ai peut-être une autre solution. C'est là où ça va se jouer. La solution où je mets Charrière quoi qu'il arrive en main card, et je l'aime beaucoup, c'est Charrière Gomis.
C'était mon choix qui choque.
Et je vais tout de suite fermer la parenthèse. Moi, j'en ai marre des gens. Mais non, faut pas se faire affronter les Français. Les Américains, les Brésiliens, ils en ont rien à secouer de s'affronter entre eux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont installés dans le MMA et l'UFC. Pour s'installer, il faut accepter qu'on s'affronte entre nous. C'est la vie, c'est comme ça. On pourra pas se protéger toujours entre nous. J'adore ce truc-là. Pour ouvrir la carte, ça fout le feu.
Bien sûr, on en avait déjà parlé.
Ouais.
Moi, c'était le deuxième choix, en tout cas. Et c'est même un premier choix bis, on va dire. Parce que quand je regardais au début, parce qu'on en a parlé de quoi ? Il y a une dizaine de jours qu'on allait faire ça. Puis après, ça a évolué, il y a eu des match-up et tout. Donc je me suis dit, en fait, là, les deux se retrouvent là. en possibilité de combattre en France. Il y en a un qui sort d'un combat annulé parce qu'il a raté son weight-cut, et salement quand même.
Ouais.
Et l'autre qui sort d'une défaite. Ils ne sont pas au même niveau tous les deux dans leur carrière à l'UFC, hein, parce que Tommy a déjà combattu et gagné. Mais voilà, c'est un combat franco-français, il y a une histoire, ils se sont déjà affrontés. C'est facile à vendre pour le public français, bah, ce serait
top. C'est génial, pour voir la carte, c'est la même carte.
Et puis, alors j'entends tout à fait qu'il y ait des gens qui sont contre le fait d'avoir des combats franco-français, parce qu'il y a plein de combattants étrangers. Mais il faut comprendre une chose qui est super importante, c'est que nous, on grandira en tant que sport dans ce pays avec des grosses oppositions franco-françaises. C'est comme ça qu'on grandit.
Oui, merci.
C'est comme ça qu'on grandit. Je suis pas en train d'instiguer un combat entre deux mecs, je suis pas en train de dire à deux mecs, à deux Français te détester. C'est pas la chose qu'on est en train de faire ici.
Non, bien
c'est
sûr, pas du tout.
C'est du sport, et pour faire grandir ce sport, il faut des grandes oppositions franco-françaises. Moi, je suis un mec qui a vu le banner Abidi à Bercy.
Ouais, bien sûr. Et je t'enverrai, si pour qu'on reste nous dans le MMA et l'UFC, ouais. Je t'enverrai une référence, et j'invite les gens qui n'étaient pas fans à cette époque-là, mais à aller se documenter là-dessus. Les conséquences qu'il y a eu au Brésil quand Anderson Silva il met son kick à Vitor Belfort.
Ouais, ouais.
Les conséquences sur le MMA au Brésil.
Ah, oui, hein.
Enfin, il y a eu déjà, c'était un sport énorme, mais il y a eu encore plus un boom à ce moment-là.
Ça a explosé. Donc voilà, c'est des choses dont on a besoin. Ces deux combattants tant ou tu veux, qui se connaissent, qui se respectent, mais qui feraient une belle guerre. Et voilà, moi je suis complètement d'accord. J'aime bien l'idée d'avoir un Charrière Jourdain, parce que voilà, ça
ouais,
fait une belle
ouverture. C'est très spectaculaire aussi. Ouais.
Mais voilà, j'aime beaucoup le Charrière Gomis, moi j'aime beaucoup perso.
Et en fait, le seul argument que j'ai contre, c'est je trouve ça un peu salaud pour William. Parce qu'il affrontait Guémoury l'année d'avant.
Et tu lui redonnes un Français.
Et tu lui redonnes. Donc ça fait dire que sur deux fois qu'il est à l'UFC Paris, enfin trois fois, puisqu'il a eu sa première, sur ces deux derniers combats à l'UFC Paris, deux fois contre un Français.
Ouais.
Mais bon, faut l'accepter.
Il n'y a pas beaucoup de KT où il y a deux Français qui sont en possibilité de s'affronter.
Et puis ça, mon premier argument emporte le deuxième en fait. Ouais. Il emporte le deuxième. On veut voir ce genre de confrontation. Donc, salaud pour William que ce soit deux fois à Paris. C'est comme ça.
Ouais, il va peut-être détester l'idée, hein, mais bon, voilà.
Ouais. Et donc. Si c'est Charrière Gomis, je le mets sur la main carte.
Ouais.
Charrière Jourdain, j'ai un doute en fait. J'ai un autre combat qui me plaît bien. Mais je vais faire rentrer un troisième nom. Je vais rentrer Kevin Jousset dans la danse.
Ok.
Jousset, Eliseu dos Santos.
Ouais.
Avec le passif qu'il y a avec BSD pour Eliseu, l'accueil que pourrait lui réserver le public français.
Ouais, ça peut être intéressant.
C'est mon seul truc qu'il voit. Mais je préfère Charrière Gomis, pour le coup.
C'est ça.
Je préfère avoir Charrière Gomis.
Ouais, moi, si c'est pas Charrière contre Jourdain ou Charrière contre Gomis en ouverture de carte, moi, j'avais pensé à Fares Ziam.
Ouais.
Et normalement, il n'est pas booké. Il a beaucoup demandé à venir combattre en France parce qu'il a des fans en France depuis qu'il a combattu BSD. Bah, c'est Matt Frévola.
Ouais, ok. Ouais. Après voilà, moi c'était un peu la wild card à la fin de mon truc. J'ai dit qu'est-ce qu'on en fait. Combattre à Paris, il est à moitié citoyen français, il met les drapeaux français, un post sur deux sur les réseaux sociaux. Ouais. Il a toujours dit je veux venir à Paris, mais pas contre un français parce que. Mais bon, nous on a dit qu'on mettait que des français à la carte. Donc Matt,
si
on va devoir s'imposer
un français.
C'est le seul truc que j'ai noté en face, c'est Ziam. Ouais, c'est cool. Alors c'est cool parce que oui, tu seras pas le fan favorite, mais je suis sûr, je connais mon public français pour le coup. Je suis sûr que même contre Ziam, Frévola, avec tout ce qu'il y a eu ces derniers mois, il se fait applaudir quand il.
Ouais, je pense qu'il y aura du respect. Je pense qu'il y aura du respect pour lui parce qu'il a bien interagi, il a bien su connecter avec les fans français. Et donc il y a un gimmick qui tourne depuis quelques mois maintenant et ça sera intéressant. Je vois pas pourquoi tu fais pas venir, quoi. Il est disponible, le mec. Il faut en profiter.
Complètement. Pour le coup, puisqu'on tourne autour de ces KT-là aussi, moi, c'est celui que j'ai enlevé en fait pour faire rentrer quelqu'un.
Ouais.
Puisqu'il y avait déjà Manon qui était en moins, donc je voulais faire rentrer deux personnes en fait.
Ouais.
Je vais te le dire dans ces prélims, deux nouvelles signatures. Les deux que j'ai enlevées, c'est Manon qui n'est pas là.
Okay.
Et c'est Yanis Guémoury.
Okay.
Qui combattra au 303 contre Talbot, où il est grande force à lui, juin, parce qu'il n'est surtout pas favori face à Talbot. Moi, je l'enlève. Parce que j'ai pas de combat qui fait trop sens, à part Loufran. J'ai pensé à Loufran, parce qu'il devait s'affronter l'année dernière à l'UFC Paris, donc refaire un peu la revanche, entre guillemets, même si le premier combat n'a pas eu lieu. Mais Loufran, il est booké au 304 à Manchester.
Ouais,
donc c'est très court en taille. Okay. Enfin, le timing ne me paraît pas correspondre. Donc malheureusement pour Yanis, c'est celui que je fais sauter.
Ouais, non, mais en tout cas, il est en option. Moi, il est en option. C'est vraiment s'il gagne, tu le ramènes. Parce que
s'il
gagne et qu'il est en bonne santé, il mérite de combattre aussi à Paris.
Là, t'as pas tort.
Mais voilà, sinon, je comprendrais qu'il y soit pas.
Ouais, surtout dans un cadre
défaite. Je pense que lui, il sait, en ayant accepté ce combat-là, je pense que lui aussi, il sait que ça lui donne peu de chances d'être sur la carte française derrière. Mais s'il gagne et qu'il est en bonne santé,
pour rebondir sur ce que tu disais,
on donne un gros prospect. Donc, c'est sûr que ça va être un combat.
Vu ses débuts UFC, comment c'est passé, je pense qu'il joue pas mal. Il faut qu'il soit au rendez-vous. Même dans la défaite hein, d'être au rendez-vous en tout cas.
Bien sûr,
soit
bien sûr.
Au rendez-vous Guémoury. En tout cas moi c'est celui que je vais sauter donc voilà ouais. Désolé Yanis mais je n'ai rien contre toi. On te verra pas.
Non, bah oui, bien sûr.
On ouvre le côté Kevin Jousset dont on a un petit peu parlé là. Ouais. Ça m'intéressait aussi moi. T'avais quoi comme idée? Je t'ai déjà donné une de mes idées mais t'avais quoi comme idée pour Kevin?
Bah moi je voulais peut-être refaire le combat qui a été loupé tout récemment contre Jared Gooden mais je sais pas où Gooden en est.
Alors un truc que je sais sur ce combat-là, moi ça m'aurait plu comme l'idée. Ouais. Kevin, je sais, il m'a envoyé un message. Il m'a dit plus jamais okay. Parce que je crois que Gooden il a botché 3 ou 4 de ses dernières pesées. Enfin, tu vois, il y en a pas mal qu'il a raté dessus. Donc il a dit plus jamais je prends ce risque avec ce mec-là.
Ok, ok. Donc, non, mais Gooden, c'est compréhensible.
C'est la seule raison.
Hein. Ouais, c'est compréhensible. Ouais. Non, bah, j'avoue que du coup avec Kevin j'ai du mal. Je sais qu'il faut qu'il soit sur la carte française, mais il y a beaucoup de noms qui sont pas dans le top malheureusement. Parce que dans le top, je crois qu'il y a quand même pas mal de mecs qui sont bookés.
Ouais, c'est compliqué. Ouais, puis, c'est je pense compliqué. Pas qu'il est encore au combat top 15. S'il avait gagné là, ouais. Tu vois, ouais. Il y avait peut-être possibilité d'avoir un top 15 à Paris. Ouais, là, voilà. Je pense qu'on n'y est pas. Il faut une étape intermédiaire.
Une victoire. Donc ouais, là, j'avais pas de nom particulier quoi en tout cas.
Lui, il a call out Nico Price. Il vient de battre Morono à l'UFC 300. J'aime bien.
Ouais, c'est bien.
J'aime bien. C'est un bon combat. C'est une bonne étape intermédiaire pour grimper dans les classements. J'aime bien. Ouais. J'avais en autre idée donc Elizu de Zaleski dos Santos dont je t'ai parlé pour le côté l'histoire qui est avec qui est avec les Français. Kelvin Gastelum.
Ah ouais.
Affronte Daniel Rodriguez ce week-end. Alors, on s'est fait un kiff.
On s'est fait rêver. T'as raison.
Qu'il a pareil. Hein, ouais. Comme Elizu. Ça devient une discussion de main card.
T'as raison,
si c'est joué, c'est Gastelum parce que Gastelum c'est un nom quand même.
Ah, c'est un gros nom.
Moi j'aime bien cette proposition. J'avais aussi Nicolas Dalby. Possible.
Ouais.
Mais bon, je suis un peu moins fan.
Ouais.
Et qu'on a vu récemment Carlos Prates.
Ok. Ouais.
Qui sort d'un gros KO aussi au 302.
Louisville.
À Louisville. Ouais. Bon, c'est plein de possibles. Ouais. Tu vois, on est toujours dans cet aéropage entre 15 et 25.
Exactement.
Et 30,
voilà. En gros, c'est ça. Il faut lui donner un nom dans ces classements-là et ça ferait sens. Et de toute façon, il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit sur cette carte-là.
De tous les noms dont on vient de dire, il n'y a pas photo. Si t'as Gastelum, c'est le plus vendeur, c'est le plus qui parle le plus à l'international.
Ouais, bien sûr.
Où ton combat a le plus de lumière dessus, on va dire. Alors, notre Kevin Jousset, on l'a dedans, on l'a pris. Ziam, on lui donne donc Frévola.
Ouais.
C'est ce qu'on s'était dit.
Franchement,
ça fait grave sens en fait.
C'est facile à faire pour moi.
Ça fait grave sens. Donc je reprends ma liste. On a fait tous les hommes, il me semble.
Ouais.
Manon Fiorro, on l'a zappé. Il nous reste une femme à placer, Nora Cornol. Madame Nora Cornol, on rappelle, qui reste sur une des victoires contre Mullins, enfin Dixon maintenant, Melissa Dixon. Sauf que Dixon n'avait pas fait le poids, elle s'était arrêtée tous les deux, elle s'était entendue sur un catchweight. Donc elle n'est pas rentrée dans le top 15. Nora n'a pas pris la place de Dixon qui était 15e.
Un peu bon.
Oui, on en avait parlé, hein, c'est un peu lunaire, mais bon. Donc là. Ouais. Par contre, je pense, vu sa performance contre Dixon, même si on ne lui a pas laissé le top 15, il lui faut un top 15.
Ouais.
En plus, vu l'état de la KT, les 135 féminins...
C'est un peu... Hein
c'est et je ne vais pas te mentir, c'est la catégorie la plus détruite de l'UFC.
Ah, c'est vraiment...
Il n'y a rien. Ils comptent tous sur Kayla Harrison pour remporter le truc et faire la catégorie sur son nom et sur son star power. Il n'y a rien. Et vivement que Manon Fiorro monte dans cette catégorie, je vous le dis, parce qu'il va y avoir du carnage. Donc, il y a beaucoup de possibilités de faire monter les gens vite, parce qu'on est un peu comme si les 205 chez les hommes, Baba. Il y a beaucoup de possibilités. Je pense qu'il n'y en a pas une de meilleure que l'autre ou pas.
Non.
La seule hors top 15 que je dirais, c'est Hélène Pérez, donc l'Argentine.
Ouais.
Parce que tu as toujours le côté. Maintenant, depuis deux ans, tu es toujours le côté
France-Argentine.
Exactement, tu vois ce que je veux te dire.
Ouais, toujours.
On l'avait en boxe là, dans la soirée, les Sadio et Samake. Ouais, il y a toujours un petit truc en plus maintenant.
Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair.
eux le savent aussi d'ailleurs, c'est marrant. Mais
tout le monde le sait, ils en parlent à chaque fois. Donc ouais,
ils savent qu'il y a quelque chose. Sinon, tu as. On va dire tout ce qui est entre 11 et 15. Quoi,
ouais,
quoi. C'est ce qui fait le plus sens. On a une Yana Sotos 12e, Nora Dumont qui est 10e, j'ai une Chelsea Chandler 14e, Pani Kanziad, c'est ça, j'aime bien, 11e. Ouais. Ça permet de monter assez vite. Ou alors la 15e, et pareil, il y a un name value. Alors, name value, hein, on est chez les 135
féminines.
Moi,
c'est celle à qui j'ai pensé. Hein,
j'ai envie
de dire c'est un nom, c'est un gros nom européen du sport de combat. Nora Cornol forcément connaît de Randami parce que par tout ce qu'elle a fait en boxe thaï et en kick.
Elle a affronté Cyborg, elle a été championne, ça a été la première championne en 145.
Elle a été championne,
elle a été championne derrière.
Non, c'est vraiment Randami, c'est un gros nom, hein, c'est une Hollandaise, donc forcément il y a beaucoup de gens aussi qui peuvent venir la voir combattre.
Elle sort d'une défaite contre Norma Dumont.
Elle sort d'une défaite, moi je me dis que ça peut être bien pour Nora parce que c'est quelqu'un, Germaine c'est quelqu'un, en tout cas en Europe on la connaît tous, ceux qui suivent les sports de combat on la connaît bien et pas que par rapport à sa carrière de MMA, c'était surtout par rapport à sa carrière en kick. Moi j'ai eu la chance de faire plusieurs fois des cartes avec elle et elle était à un moment donné c'était une aussi grande star qu'un Spong ou etc, enfin vraiment c'était un gros nom du kickboxing, donc Je me dis que ça peut être bien. En plus, c'est une combattante qui combat debout. C'est deux combattantes qui viennent du Muay.
Complètement.
Donc ça peut être super intéressant. Ouais.
Ça va, stylistiquement, ça devrait donner quelque chose d'intéressant. Et tu dis, c'est un nom, c'est quelqu'un. De toute façon, tu vois, même au nouveau public qui la connaît, elle a été championne du UFC, les gars.
Ah, elle a été championne de l'UFC. Elle a une grosse histoire, hein, Germaine de Randami. Vraiment, à l'UFC, ils n'ont pas vraiment pas fait un bon travail pour la mettre en avant.
Ouais.
Mais en Europe, c'est quelqu'un. Attention, elle a même combattu un homme. Donc,
non, mais t'es gentil sur ce que t'as dit. L'UFC, ils l'ont abandonné de fou.
Ouais, ils ont vraiment pas voulu.
C'est la première championne en 145. Ouais. Ils voulaient tellement Cyborg qu'ils l'ont complètement. Enfin, ils l'ont abandonné de fou.
Bon,
on a dealé toutes nos personnes qu'on voulait. Qui on fait rentrer maintenant? C'est le dernier thème, Baba. Qui on fait signer? Puisqu'on l'a vu, les deux dernières années, il y a eu des signatures. C'est l'idée de lui. Alors maintenant, on l'a dit, hein, ils ont assez de Français pour remplir une carte entière de UFC Fight Night.
Absolument.
Mais entre les désistements, les
trucs,
il faut en signer. Ouais. Ils savent qu'il y a du potentiel. Je pense que l'UFC adore aujourd'hui la France en termes de combattants.
Ils savent qu'on est fort.
Donc, l'UFC Paris, je pense que chaque année sera l'occasion, en tout cas pour eux. Est-ce qu'ils le feront chaque année, j'en sais rien. En tout cas, chaque année, ils s'interrogeront. Ouais. Qui on peut faire rentrer dans le roster en France cette année? Il y a l'UFC Paris qui arrive. Je te donne plusieurs noms comme ça, tu vas me dire c'est quoi tes préférés. On avait forcément Baki, qui est dans les grands noms que tout le monde attend, hein, des grands espoirs dans le MMA en France. Beaucoup veulent le voir à l'UFC. Nicolas Leblond, Michael Adjaroudj. Là, on parle de la seule catégorie, donc les moins de 57 kilos, les poids mouches, où il nous manque quelqu'un. Donc, c'est les deux noms qui font le plus sens pour avoir. Et là, on aurait un homme dans toutes les catégories.
Yes.
Axel Sola, Virgil Hogan, les deux champions de Ares qui viennent de Nice et du Boxing Squad, des gros, gros talents. C'est les cinq que je t'ai mis. Moi, je m'étais mis deux entrées, donc je te donnerai mes réponses. Qui tu fais rentrer? Et tu peux faire rentrer quelqu'un qui n'est pas dans ma liste, bien entendu, Baba.
C'est les cinq noms que j'avais évidemment noté, que tout le monde a en tête, évidemment. Baki, évidemment que c'est le premier nom qui va te venir en tête. C'est normal. C'est normal. Je ne sais pas ce qu'il en est.
Non.
Je ne sais pas où ils en sont, si c'est en négociation. Je pense que tout le monde est sur son dos, clairement. Toutes les organisations qui se respectent veulent signer ce combattant parce que c'est un super combattant.
Nous on n'a pas, c'est clair, hein, à RMC Sport, on parle avec tous les grands patrons des ligues, puisqu'on est diffuseur. Oui, tout le monde nous dit, que ce soit en off, en in, tout le monde nous dit on aime Baki, si on peut l'avoir, on l'a.
Je pense que tout le monde le veut, je pense que tout le monde a fait une proposition, donc j'aimerais juste dire que personnellement, je ne serais pas surpris s'il ne signait pas l'UFC.
Non.
Ça voudrait dire qu'il a une très belle offre ailleurs. Et que voilà.
De toute façon, on va être clair. L'UFC, on sait ce que c'est, les propositions quand tu commences.
Ouais.
Moi, j'ai vu tourner aussi les trucs sur les réseaux, je vais le dire, parce que pour le coup, c'est sur Maître Fumier que j'avais vu tourner qu'on lui proposerait 12-12.
Ouais, tu vois.
Si c'est 12-12, mon message, il est clair. Baki, il va pas à l'UFC.
Perds ton stylo.
Parce que vu les gens, vu l'aura que t'as déjà à 22 ans, vu le côté star que t'as déjà à 22 ans, va au KS, va au PFL, je ne sais pas qui te proposera le plus, mais en tout cas, pendant quelques temps, là, si c'est 12-12, si c'est réel...
Oui, en plus, il est très jeune.
C'est bon, t'as le temps. 12-12, non. Vraiment le star power que t'as aujourd'hui dans les mains, va te faire une revanche contre Doumbé, tu sais ça rapportera plus. Vraiment.
Franchement, si c'est vrai, je ne sais même pas quoi dire.
Il l'a laissé entendre, d'ailleurs, sur un tweet hier soir. Hein. Il avait avec un petit clin d'œil, on lui parlait de la revanche de Doumbé, il dit « je dis rien », mais et il met un petit clin d'œil.
Évidemment, comme beaucoup, en tant que fan du sport, tu veux le voir se confronter à l'élite. Maintenant, avec Baki, je me suis toujours dit « ça va être très compliqué ». Ça va être très compliqué parce que c'est quelqu'un en Europe maintenant, il a un nom. C'est un prospect mondial qui est suivi par ceux qui font, qui font du Prospect Watch. Tout le monde l'a dans sa liste depuis
longtemps. Les médias américains l'ont dans les listes.
Il est dans une situation un peu bâtarde où il a une vraie popularité, mais que l'UFC ne veut pas déroger. Ils sont très intransigeants sur leur manière de signer les combattants et qu'ils dérogeraient pas. J'imaginais pas que ce serait si bas que ça.
C'est pour ça que je citais la source, parce que j'ai pas de confirmation pour le coup.
Non, mais...
C'est une dinguerie. C'est une dinguerie.
C'est des personnes bien informées.
Si tu perds le combat, tu prends que 12 000.
C'est des personnes bien informées. Donc, perso, je me dis que c'est compliqué. C'est trop compliqué de signer à ce prix-là.
C'est pas possible.
C'est trop compliqué. Donc,
tu prends que 12 000, Baba.
C'est bien qu'on ait cette discussion-là parce que, c'est les raisons pour lesquelles je ne l'ai pas mis là dans les deux que j'ai choisi.
Ouais, mais moi aussi. C'est la seule raison
pour laquelle. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas le voir à l'UFC. C'est juste qu'avec tout ce qui se passe autour de Baki, j'ai du mal à le voir là.
Il peut trop prendre ailleurs en fait, vraiment. Et on se répétera, vous avez sans doute vu passer sur les réseaux, et on en refera un point de ces quatre. Baba, moi je suis complètement d'accord avec Saladin quand il va signer au PS, vu la proposition qu'il a eue. Donc je sais que t'es je prêche un convaincu.
Non, mais... j'ai reçu beaucoup de messages. J'ai reçu beaucoup de messages privés.
On va faire quelque chose.
J'ai pas répondu à tout le monde. Désolé à tous, j'ai pas répondu à tout le monde, mais mon message il est clair. Il était déjà clair. J'ai déjà donné ce message.
Oui, bien sûr. On se répète.
J'ai déjà donné ce message là. Il est clair et net. Premièrement, c'est un combattant qui déjà les combattants font ce qu'ils veulent. Ça c'est la première chose. Et puis franchement, tu peux pas refuser ce genre de prime, tu ne peux pas le refuser.
C'est du prize.
Je comprends tous les fans qui sont déçus parce qu'ils veulent le voir.
Mais oui, vous aussi on aurait aimé
face à l'élite. Je vous comprends, vous avez raison. Je vous comprends. Seulement lui aussi il a raison.
Ouais.
Voilà.
Et ça ne pas m'exclure. Et on va faire une vraie émission dessus, Baba, parce que c'est important, parce qu'il y a beaucoup de choses à rappeler. Ouais. Déjà, ça met une bonne nuance à ce qu'on appelle l'élite parfois.
Oui.
Vraiment. Ouais. Parce que quand tu vois tous les 145, tous les poids plumes qu'il y a dans le monde ailleurs, il a des belles choses à faire, notamment avec des mecs au Rising. Enfin, il y a des choses à faire.
Oui, et puis un partenariat qui vient d'être signé, donc c'est super intéressant.
Et qu'il faudra rappeler aux gens, Baba, c'est pas un sport ce qu'on commente. C'est un business.
Ouais, c'est
pas un sport. Tu vois, c'est pas un sport avec deuxième division nationale, tu montes,
oui,
tu veux machin.
Parce que je vois beaucoup de comparaisons de.
C'est du prize fighting, c'est du business.
Je vois beaucoup de comparaisons de. Il pouvait combattre pour la Champions League, il a choisi l'Europa League.
C'est du business qui est lié au sport.
Ouais,
bien sûr qu'il est lié au sport, mais c'est du business.
Ouais.
Tu vois, c'est très important ça.
Encore une fois, je comprends tout à fait en tant que fan que vous auriez voulu le voir à l'UFC. C'est tout à fait compréhensible. Maintenant, il a raison aussi de privilégier. J'ai vu aussi des messages en disant que, mais il a déjà pris pas mal, qu'est-ce qu'il a fait de cet argent-là ? Mais je vous retourne la question. Dans ce cas-là, je vous retourne la question. Qu'est-ce que vous avez fait de vos 12 premiers salaires ? Qu'est-ce que vous avez fait de vos salaires de l'année dernière ? Enfin, c'est facile de dire ça.
Ouais,
je comprends
facile.
Pas trop. Bref, on va pas s'étendre là-dessus.
Non, bien sûr, on
fera un épisode là-dessus. Et avec grand plaisir, moi, ça m'intéresse de le faire.
Mais en tout cas, moi, si Baki décide de pas venir à 22, mais de venir à 25, en ayant coffré pendant 3 ans dans les orgas qui lui offrent le maximum, avec par exemple une revanche contre Doumbé ou d'autres choses, KSW par exemple, quand on l'a évoqué. Mais
oui, et puis moi, mon argument aussi par rapport à Baki, mon argument, il est aussi sportif. Mon argument, il est même, je dirais même que mon argument par rapport à Baki, il est sportif avant d'être financier. C'est un combattant qui n'a que 20 piges, qui peut continuer à faire ses armes. Et voilà, il peut faire ses armes dans des ligues qui sont fortes, qui ne sont pas aussi fortes que l'UFC, mais qui sont fortes. Et puis,
passer un step, en fait.
Et arriver dans la force de l'âge à l'UFC, bah, pourquoi pas.
Mais en fait, c'est vrai que quand on a des talents comme ça, le public a tendance à vouloir, je ne sais pas si tu vas voir ce que je veux dire, mais à vouloir faire une John Jones. Enfin, tu vois, il a beaucoup de talent, donc il faut qu'à 20 ans, il soit à l'UFC. Non, les gars, on peut prendre son temps, on peut arriver à 25, on peut arriver même plus tard que ça, avoir fait une belle carrière avant, avoir progressé pour être au niveau quand on arrive à l'UFC. Parce que c'est pareil, t'arrives, et dès qu'on te met face à l'élite, tu commences à prendre 2-3 défaites de suite parce que t'es pas prêt, que t'es trop jeune ou tu vois, machin.
Exactement.
Ça peut aussi briser ta carrière.
Pour moi, il a le temps. Et pour toutes ces raisons évoquées, c'est pour ça que j'ai pas choisi. Moi, j'ai choisi deux.
On zappe tous les deux Baki, c'est très bien. Et vas-y, les deux, tiens.
Ouais, bah j'ai choisi. Alors, il fallait choisir entre les deux. Franchement, les deux méritent l'un autant que l'autre parce qu'ils ont des belles performances dans une catégorie où on a personne. Il a fallu choisir. J'ai choisi Aljarouj.
C'est très bien.
Pour rien, pour pas de raison particulière.
C'est très bien, Baba. J'ai choisi le blond.
Voilà.
Et j'ai noté, j'ai pas vraiment de raison. Donc,
il faut qu'il y en ait un des deux.
Ouais.
En espérant que l'autre soit signé, mais pas pour Paris, mais pour un autre event et qu'il vienne, quoi.
Il y a une dinguerie qui avait été proposée par Mika Lebou, qui a fait l'exercice sur les réseaux.
Ouais.
Mika Lebou, il propose le blond Aljarouj.
Voilà. En fait, t'imagines.
Mais attends, viens au délire, Baba. Le blond Aljarouj, le gagnant, il a un contrat.
Ah oh ouais, dur.
Dana White Contender Series, mais dans l'accord Arena avec 15
mecs. Ouais, dur.
Ça n'arrivera pas, je viens de me taper un délire, les gars. Ouais. Mais...
Ils méritent tous les deux diètes. Donc maintenant, si tu fais l'opposition, bah écoute, c'est parfait. Et pour le public franco-français, c'est parfait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une opposition franco-française pour faire grandir le sport, c'est ce qu'on a besoin.
J'y avais pas pensé, mais c'est une bête d'idée.
Donc,
en fait.
Il a raison, Mickaël, clairement. Sinon, en tout cas, il faut en signer un des deux, que ce soit l'un des deux, pour moi, c'est pareil. Tant que l'autre aussi est signé pour plus tard.
Ouais. Exactement, l'un ou l'autre, ils méritent tous les deux. Aljarouj, on a vu ses performances là récemment encore à Hexagone. Nico Leblond, il a annoncé qu'il y avait une bonne nouvelle et on a compris que ce serait soit la ceinture du Cage Warrior, soit une signature à l'UFC.
C'est ça.
Donc voilà, c'est des gens qui progressent.
Moi, je me dis
qui
que
sont
moi,
dans le bon sens.
En gros, j'ai choisi Aljarouj parce que je me dis que Leblond, il peut faire une ceinture. Et c'est toujours intéressant de récupérer une ceinture
d'une orga connue à l'international.
Vraiment connue. Et puis Aljarouj, il est là, bah, tu peux le signer tout de suite, donc tant mieux, ça va être fait.
Non, mais on est bien, Baba. On en a choisi. L'autre a choisi l'autre, comme ça. Les deux, quand ils écoutent l'émission, seront les vœux tous les deux à l'UFC, que ce soit à l'UFC Paris là ou plus tard.
Clairement.
Et le deuxième, ça va aussi être un choix, parce qu'en fait, on a tous les deux.
Ouais,
on a fait
mais du coup, avec ce qui s'est passé la semaine dernière, ça c'est mon choix est devenu très clair. Du coup, j'ai choisi Virgil Hogan.
Ok.
Ouais. J'ai choisi Virgil parce qu'il a récupéré
la ceinture. Le choix dont on parle, c'est entre Axel Solaï et Virgil Hogan. L'un est champion des lightweight et légers à Arès, l'autre est champion des moyens des 84 à Arès.
Voilà, et j'ai choisi Virgil parce qu'il est champion, ça s'est fait il y a quoi, un mois à peu près maintenant.
Ouais, un mois, un gros mois.
Voilà, il a le temps, il est frais, il peut se préparer, il arrive dans une KT aussi où il peut faire quelque chose. Ça peut être intéressant pour lui. Donc voilà, je choisis lui. Pourquoi ? Parce que Sola vient de combattre, vient de faire match nul.
Daguerre Imavov.
Contre Imavov, dans un super combat.
Incroyable
que j'ai kiffé.
Combat, génial.
Super combat, il était génial. Et j'ai beaucoup aimé son discours de comment il a parlé à la fin du combat, Axel. Il a super bien parlé. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi, Axel, sur le fait que tu dises que tu n'es pas champion. Si, tu es champion.
Ouais. Oui, tu es champion.
Tu restes champion, tu restes le champion.
C'est toi qui avais la ceinture, il y a eu un match nul.
La ceinture, ouais. Tu ne l'as pas perdue. Maintenant, je comprends l'esprit. Je comprends l'esprit, je comprends la philosophie, je comprends ce qu'il veut dire dans le sens.
Et alors,
voilà, je n'ai pas gagné, donc je ne suis pas censé être le champion.
C'est très lui. Hein. Je ne le connais pas. On n'est pas un perso, hein, mais
c'est
ça lui ressemble.
Mentalité. C'est, ouais. Super, c'est une super belle mentalité. Et donc, forcément. Bah, il faudrait la revanche avant de partir vers d'autres pâturages.
Okay. T'as envie de... Non, mais c'est vrai que la revanche, voilà. Elle fait grave.
C'est
sens.
Juste pour ça, en fait.
C'est voilà. Un des rares matchs nuls vraiment mérités.
Ouais, c'est juste
vraiment
pour ça.
Mérité.
C'est juste pour ça, je me dis qu'il fasse la revanche et dans l'éventualité où il gagne, bah ensuite, voir. Okay.
Voilà, ce combat, d'ailleurs, ce combat était incroyable. Merci Marc Godard de ne pas avoir arrêté quand
Beaucoup
d'arbitres auraient arrêté. On aurait pu les comprendre, mais vu comment le combat a tourné derrière. Franchement, moi, l'arbitre arrête à ce moment-là, je crie pas au scandale contre l'arbitre.
C'était un beau combat.
Mais bravo parce que ce qu'il y a eu derrière, tu vois, c'est marrant. On a été à l'inverse sur les deux parce que moi j'ai choisi Sola, okay. Axel Sola,
ouais.
Et à cause de vendredi, okay. À cause de ce qu'on a vu ce week-end,
ouais.
Entre ce combat-là, ce qu'il a montré contre Younousov pour prendre la ceinture, ouais. Juste avant, tout son passé, on sait, ancien numéro 1, Pandefort, Pandimaf, ouais. toute l'expérience qu'il a accumulée, je crois qu'il a 25 ou 26, Axel, pour moi c'est le moment. Là, tu vois, on reparle. Pour moi, Axel Sola n'a pas un nom suffisant pour se vendre comme Baki peut se vendre, okay. Au PFL ou au KSW. Sans doute qu'il signerait pour plus cher qu'à l'UFC,
ouais.
Il va pas prendre un jackpot,
ouais.
Comme pour prendre un Baki. Donc pour moi, le chemin, il est là maintenant.
Okay.
Tu peux prendre l'UFC. Après, j'entends ton argument. Si tu me dis qu'on fait une revanche Soleil Mavov, ouais, je suis content.
Moi, je me dis qu'il peut faire la revanche, ouais, et signer cool. Après pour une autre carte.
Ouais, bah, non, mais dans ce cas-là, je prends.
Comme Oumar Sy qui a signé pour pas une carte française pour ses débuts, comme plein d'autres.
Dans ce cas-là, je prends. Après, s'ils veulent le mettre direct à Paris, si l'UFC veut lui faire le pari là tout de suite, moi, j'entends.
Ah oui.
J'entends
son discours aussi. De toute façon, il faut que ce soit bien clair, si je l'ai pas été assez avant. Pour tous ces mecs-là, quand j'ai fait un choix par rapport à un autre, je veux qu'ils signent tous.
Ouais, grave.
Pour moi, ils méritent tous de signer. Pour moi, ils méritent tous, donc ils signent tous, que ce soit pour cette carte française-là. Il y aura sûrement des UFC tous les septembre, ouais. À Paris, je pense qu'on l'a tous bien compris maintenant, voire dans d'autres villes, dans d'autres villes françaises. Il serait grand temps aussi, hein, qu'ils aillent visiter les villes françaises. Il y a Lyon, il y a Marseille, il y a des gros.
Dès la première année, ils en avaient parlé, donc il faudrait y aller.
Il faut aller, il faut visiter. Et puis moi, ça m'intéresse grave, hein, d'aller voir un UFC à Marseille, par exemple. Donc ouais, il faut. Voilà, pour moi, il faudrait juste que tout le monde signe. C'est juste que là.
Non, mais
ça me facilite le choix.
Si j'avais pas assez pensé, voilà. T'as raison. On fait signer Hogan là et Sola. Et avec Daguir d'ailleurs, possiblement, s'ils veulent, on les fait signer après leur revanche à l'arrêt.
Parce qu'il est fort,
Daguir. Non, c'est vrai qu'on peut les faire signer aussi après leur revanche, ouais. À l'arrêt. Ça fait quand même un peu de sens. T'avais un dernier nom avant qu'on conclue. T'avais quelqu'un qui t'intéressait en possible venue ou quoi? Non.
Non. Là, enfin, je peux te redire que j'ai coché tous les noms.
Non, moi en signature, j'avais en wildcard absolue signature. Mais je pense pas que c'est marrant parce qu'en plus, Arès lui a pas encore donné la ceinture ou quoi. Tekena. Alexandra.
Ah, Alex, en plus, Alex.
Pour avoir une femme en plus.
Ouais, ouais, ouais.
Elle a, je trouve, tu vois, entre sa personnalité, son truc, je trouve qu'elle collerait très bien à l'UFC.
Ouais, c'est clair.
Et ce serait une wildcard absolue. Ouais. Mais bon, on va la chercher loin et je pense que c'est trop tôt. Peut-être pour l'UFC, ouais, Paris d'après. Si elle,
en
si
tout
elle
cas, c'est une vraie personnalité, c'est une vraie combattante que j'ai la chance, ouais, de côtoyer en plus. Et ouais, vraiment, moi, je serais super heureux si elle signe à l'UFC, Alex. Ça, c'est sûr.
Et on rappelle aussi que Mathieu Leto Duclos fera les Dana White Contender Series cet été.
Aussi, ouais.
Pas encore la date exacte, mais ce sera sans doute trop tôt par rapport à ça, même s'il gagne son combat et que Dana le fait,
ouais,
signer un contrat.
Ouais.
Je pense que le timing correspond pas très bien pour qu'il soit à Paris.
Ouais, c'est un chemin différent là un peu.
Bon, bah, on a fait une belle carte, mon baba.
Ouais, voilà.
Il y a quand même des combats cool. Hein.
Ouais.
Franchement, si tout se réalise,
c'est clair.
On a une des plus belles Fight Night de l'année, je crois.
Ce serait cool. J'espère en tout cas voir dans les commentaires vos cartes.
Ouais, exactement.
Faites l'exercice, c'est pas facile.
Faites l'exercice,
hein.
Balancez le tout. Plutôt que de critiquer les nôtres, balancez les vôtres.
Faites-le, et puis comme ça on regarde, on rigole, on en débat.
Et c'est pas simple. Hein. Des fois, quand t'es devant la liste de tous les mecs, qui je donne à lui, qui je.
Ah,
c'est pas simple. C'est pas toujours facile. Merci beaucoup, baba, pour cet exercice. Un peu d'autofiction. Rendez-vous donc le 28 septembre à l'Accor Arena de Paris et sur RMC Sport, bien sûr, pour la 3e édition de l'UFC Paris, mise en vente des billets, je le rappelle, pour le grand public, le 5 juillet. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Salut mon baba.
Salut Alex, ciao.
RMC Fighters Club.